Alors, bienvenue à nouveau à cet enseignement sur le Bodhicharya Avatara. On est au chapitre 8 et c'est le chapitre sur la méditation. Et nous en sommes, la dernière fois, nous avons vu jusqu'à la stance 83 et j'ai dû aller un peu vite à la fin. Par manque de temps. Donc cette stance, elle disait, s'il suffit d'un millionième de ces difficultés pour réaliser la bouddhéité, les êtres de désir souffrent plus que ceux qui œuvrent à l'éveil, mais ils n'atteignent pas l'éveil. Donc Rinpoche explique que ce que dit le texte, c'est que les efforts que nous faisons et les difficultés que nous traversons et les difficultés, les obstacles, la douleur, le stress, l'anxiété, les soucis que nous endurons, et cela dans le but de courir après les choses auxquelles nous sommes tant attachés, parce que c'est ça que nous faisons sans cesse. On fait ça jour et nuit, toute notre vie durant. En fait, si on ne faisait qu'un millionième de ces efforts-là, si on, seulement un millionième de tous ces efforts-là, des efforts de ce type, mais si on faisait ce millionième d'efforts, non pas pour poursuivre les choses auxquelles on est attaché, mais pour atteindre l'éveil, eh ben on aurait déjà atteint l'éveil, on se serait déjà libéré de la souffrance. Si on ne consacrait à ça qu'un millionième du temps qu'on a consacré jusqu'à présent à cet objectif inatteignable, à cet objectif qui ne peut jamais nous apporter une satisfaction durable, à cet objectif, on pourrait presque dire stérile, vain et infructueux, en fait, après avoir fait des efforts pendant tant de vies, pendant un nombre de vies incalculable, avec des efforts incessants, qu'est-ce qu'on a gagné en fait? Rien. On est tout aussi non éveillé, on est tout aussi ignorant, on a tout autant de fardeaux, de problèmes, de souffrances et de douleur qu'auparavant. On n'a pas fait avancer les choses d'un iota. Et donc c'est inutile, c'est stérile. On ne fait que courir après la souffrance, la douleur et les problèmes sans jamais atteindre quoi que ce soit qui en vaille réellement la peine et qui soit réellement durable. Et donc, on en vient à la stance suivante, 84. Si l'on songe aux souffrances infernales, on voit que les armes, le poison, le feu, les précipices et les ennemis ne sont en rien comparables au malheur engendré par le désir. Donc Rinpoche explique que trop d'attachement, trop d'avidité, on peut dire que c'est comme des armes. C'est comme des armes, c'est comme le feu, c'est comme le poison. C'est comme des chutes, des chutes de très haut. Et c'est comme aussi des ennemis très hostiles. Parce que plus nous avons d'avidité, plus nous avons d'attachement, plus nous allons être blessés, percés, blessés au sang. Ça ne nous apportera aucune paix, ça ne nous apportera aucun accomplissement. Donc c'est comme des armes. Plus nous avons d'attachement, plus nous avons d'avidité, de désir, de gloutonnerie, plus nous brûlons. En fait, ça ne nous aide pas à nous calmer, ça ne nous aide pas à nous rafraîchir en quelque sorte, ça ne fait que nous brûler toujours et encore plus. Et plus on a ça, plus ça apporte de souffrance, de douleur, de problèmes, c'est vraiment comme du poison. Et puis, si nous poursuivons les choses auxquelles nous sommes si attachés, les sommes vis-à-vis desquelles nous avons tant d'avidité, alors nous ne pourrons que chuter, comme si c'était dans un précipice. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est comme si on courait vers cette falaise haute et dangereuse, et il n'y a pas de, sans qu'il puisse y avoir d'échappatoire. Et c'est aussi comme nos plus hostiles ennemis, et c'est pareil avec la colère et la haine. En fait, si on avait un ennemi, et si on se rendait totalement à lui, si on disait à cet ennemi, d'accord, je vais faire tout ce que tu dis, donc maintenant, s'il te plaît, deviens mon protecteur, parfois, il pourrait devenir vos protecteurs. Peut-être que au début, ils vont vous mettre en esclavage et vous donner un travail très harassant, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ils pourraient même devenir vos amis, ou en tout cas, en quelque sorte, vos mentors. Mais ces émotions négatives, qu'il s'agisse de haine, qu'il s'agisse de l'avidité ou de l'attachement, à aucun moment, ces émotions ne peuvent devenir vos amis. En fait, ces émotions, toujours, constamment, par nature, elles vous apporteront encore plus d'insatisfaction, de malheur, de souffrance. Et donc, comprendre ça devient très très important. Et alors, quand vous savez, en tant qu'être sensible et surtout en tant qu'être samsarique, on ne peut pas n'avoir aucun attachement, on ne peut pas être complètement sans attachement, on ne peut pas être complètement sans désir, sans soif. Mais quand on voit ça, quand on voit l'effet que ça a, quand on voit réellement ce que ça fait, ce que ça nous fait, alors forcément, on doit se demander, on doit se dire, on ne peut pas devenir complètement un esclave de notre attachement, de notre soif, de notre avidité. Parce que ça n'est vraiment que nuisible pour nous. Ça ne nous apporte aucun bénéfice véritable. Et quand on voit cela, alors je pense qu'on peut avoir un peu de clarté. Un peu de clarté. Et lorsque cela se produit, alors nous commençons à avoir un point de vue légèrement différent sur les choses, une façon de voir les choses légèrement différente, une attitude qui devient légèrement différente. Et je pense que je vais d'abord lire le tibétain d'Irinpoche. Et donc ça nous rend un peu plus, vous voyez, ça nous donne un peu plus l'envie, l'aspiration, la volonté de tourner notre esprit vers la solitude. Ça fait que notre esprit se tourne un peu plus vers la solitude, vers la liberté par rapport à cet attachement. Et alors, ça nous apporte un peu d'appréciation, c'est-à-dire que on se met à aimer et à apprécier la solitude, la paix, la liberté de cette soif, de cette saisie, de cet attachement, de la haine aussi, de la colère, de la jalousie, un peu. Et donc, le texte dit, et donc c'est le début de la stance 84, si l'on songe aux souffrances infernales, on voit que les armes, le poison, pardon, c'est le début de la stance 85 qu'on lit maintenant. Ainsi dégoûté du désir, trouvons notre joie dans la solitude. Donc ça, c'est ce que vient de lire Rinpoche en anglais et en français. Et donc, il explique que nous tournons l'esprit vers la solitude parce que nous avons compris, nous savons que poursuivre notre attachement, notre avidité, continuer avec ça, c'est exactement comme courir vers une falaise qu'il nous faudra sauter ensuite et toutes les autres choses qu'on a vues avant. Donc, quand on sait que tout ça ne sert à rien, que ça ne fait que ça n'apporte que de la souffrance, de la douleur et des problèmes, alors je n'ai plus et je n'ai pas besoin de tout abandonner tout de suite. C'est plutôt mon état d'esprit qui change. Je l'ai dit beaucoup de fois auparavant, mais je dois insister dessus à nouveau. Ce que nous essayons de faire ici, c'est d'apprendre à devenir compatissant, aimant, et à ne pas devenir attaché et à ne pas devenir avide. On doit diminuer notre avidité, notre attachement, notre désir, notre gloutonnerie, et on doit essayer de faire grandir notre amour. On doit devenir plus aimant, plus compatissant, plus bon, plus libre, plus ouvert et plus joyeux, non lié à quelque chose. C'est ça que l'on essaye de faire ici. C'est dans cette direction que l'on essaye de travailler. Et donc, le texte continue. Donc, joie dans la solitude, des paisibles forêts, exemptes de conflits et d'émotions négatives. Donc ça, c'était la fin de la stance 85. Et Rinpoche continue en lisant les stances 86 à 88. Alors, la stance 86, là, sur des rochers vastes comme des terrasses de palais, dans la fraîcheur de santal du clair de lune, les êtres fortunés, qu'en silence une douce brise évente, marchent en pensant au bien des êtres. Stance 87. Ils séjournent aussi longtemps qu'il leur plaît, dans des cabanes abandonnées, au pied des arbres ou dans des grottes, libres de la souffrance d'avoir et de protéger, à l'aise et sans souci. Stance 88. Être libre, sans le moindre attachement et sans aucun lien avec quoi que ce soit, voilà un bonheur et une satisfaction qu'Indra lui-même aurait du mal à obtenir. Et maintenant, Rinpoche lit ses stances en tibétain. Donc, un endroit où il n'y a pas de conflit, qui est dépourvu de conflit, où il n'y a pas de difficultés pour gérer des personnes qui se plaignent, qui créent des conflits, etc. où il n'y a personne qui perturbe notre esprit. Et on est aussi libre. Donc, dans ce genre d'endroit, on a moins d'émotions négatives, on a moins de kleshas. Parce que les kleshas, les émotions négatives, elles se produisent en raison de trois choses. La première chose, première raison, c'est que nous n'avons pas complètement éliminé nos émotions négatives fondamentales. Les émotions négatives fondamentales sont toujours présentes. On est toujours auto-centré. Et de là découle plein d'émotions négatives qui n'ont pas encore été pleinement purifiées. Ça, c'est la première cause des kleshas. La deuxième cause des kleshas, c'est que il y a des provocations, c'est-à-dire qu'il y a des objets. Et puis, la troisième cause, c'est que nous réagissons de façon négative à ces objets qui viennent provoquer les kleshas. Quand ces trois ingrédients se réunissent, alors toutes les émotions négatives peuvent se manifester. Et donc, on a toujours la première raison, parce que nous sommes des êtres négatifs, on n'a pas pu éliminer cela, et c'est pas quelque chose que nous allons pouvoir éliminer facilement. Mais la seconde chose, le second point, c'est que lorsque nous sommes seuls, lorsqu'il n'y a pas d'objet qui vient titiller et susciter tout ça, qui vient activer nos émotions négatives, alors elles ont beaucoup plus de mal, ces émotions négatives, à se manifester, à devenir manifestes. S'il n'y a pas de perturbation, s'il n'y a personne qui vient nous perturber, nous déranger, s'il n'y a rien pour venir nous donner envie de courir après, s'il n'y a rien à quoi on est trop attaché, rien envers quoi on est trop attiré, alors ces émotions négatives ne peuvent pas se manifester. Et puis, par-dessus le marché, si nous n'avons pas la réaction négative consistant à vouloir et à croire que cette chose va nous rendre si heureux, si on sait qu'il n'en est rien, que ça ne va pas se passer ainsi, alors il peut y avoir plus de paix. Naturellement, il peut y avoir plus de paix. Et donc, on est donc dépourvu de ces émotions négatives. Et ça peut se produire dans des lieux paisibles, comme des forêts. Et alors on peut profiter de cette forêt. Le soir, on a la lune qui nous éclaire. Il y a des odeurs agréables de fleurs, de bois de santal, une brise fraîche. Donc là, sans doute, ça parle de l'Inde, tout ça. Et puis, vous êtes assis sur une pierre plate agréable et c'est encore mieux qu'un grand palais parce que ce palais-là, vous n'avez pas besoin de le nettoyer sans cesse, vous n'avez pas besoin de dépenser tant d'argent à l'entretenir, vous n'avez pas besoin d'avoir peur que quelqu'un vienne vous le voler, rien de tel. Et puis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de son perturbateur, et donc ainsi, vous pouvez tranquillement, paisiblement, joyeusement, avec une compassion universelle et un amour universel, parce que vous n'êtes plus lié ou attaché à quelque chose ou à quelqu'un ou à quelques personnes en particulier, donc votre esprit peut développer une compassion vraiment libre d'attachement. Rinpoche lit un petit peu du texte en tibétain, mais je ne sais pas à quel sens ça correspond. Donc, que ce soit dans la forêt ou que ce soit dans une cabane abandonnée, là où il n'y a personne, ou sous les arbres, il y a beaucoup de grands êtres en Inde qui ont passé du temps sous les arbres, comme le Bouddha, qui est resté sous un arbre pendant beaucoup d'années, de nombreuses années, ou que ce soit dans des grottes. Il y a beaucoup de personnes au Tibet et dans beaucoup d'autres endroits qui ont séjourné dans des grottes. Et parce que ces endroits ne sont possédés par personne, donc personne ne voudra vous en expulser, donc vous pouvez y demeurer aussi longtemps que vous voudrez. Et il n'y a pas besoin de s'enregistrer, de les acheter, ces endroits, de payer pour ces endroits. Donc il n'y a pas la souffrance de s'y accrocher. Il n'y a pas la souffrance de devoir les protéger. Donc, vous êtes très, vous pouvez être très libre de soucis, très insouciant, mais de manière positive. Vous pouvez aller partout, vous pouvez partir quand vous voulez, vous pouvez revenir quand vous voulez. Donc, vous êtes complètement libre. Et donc, il n'y a pas d'attachement. Et donc, vous n'êtes plus lié par rien. Et donc, vous pouvez avoir un contentement complet parce qu'il n'y a plus quoi que ce soit que vous désiriez. Ça, c'est le type de pratique que la plupart des grands yogis, des grands méditants, des grands maîtres du passé ont fait. Milarepa, il a vécu dans des grottes, sous des pierres, presque toute sa vie, sous des rochers. Et la plupart des grands maîtres ont pratiqué dans la solitude. C'est pas que les maîtres bouddhistes, même d'autres maîtres spirituels, la plupart d'entre eux, ils ont atteint leur accomplissement spirituel dans la solitude. Et donc, quand vous apprenez vraiment à faire cela et que vous êtes dans cette solitude, alors ça crée tellement, tellement de joie, de bonheur, de liberté. Tellement d'indépendance que ce type de joie, d'indépendance et de liberté, cette liberté consistant à n'avoir aucun attachement, à n'avoir rien après quoi on doive courir, cette liberté de n'avoir rien à quoi on soit obligé de s'accrocher, et ben ces libertés-là, même le roi des dieux, Indra, ne peut pas la posséder, ne peut pas en disposer. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Merci. Ça dure 24 minutes, la vidéo. Je ne sais pas si ça va fonctionner, mais je vais essayer. Merci à tous.